Supermap, c'est un collectif, un réseau de musiques actuelles en Bretagne qui rassemble différents acteurs de la filière et pour les aider à se structurer à la fois en interne, enfin entre eux, et puis ensuite pour porter des revendications politiques, si je me ne trompe pas.
Non, c'est ça. C'est un réseau professionnel comme il en existe dans toutes les autres régions. On était une des dernières régions à se doter de cet outil-là. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir un réseau pro sur la filière musique actuelle en Bretagne.
Pourquoi cette réunion aujourd'hui ?
Donc en fait, l'objectif de cette rencontre, c'était d'une part de pouvoir permettre... Donc les personnes qui étaient présentes ici, en fait, c'était des acteurs et actrices des musiques actuelles. Ça pouvait être des personnes privées, mais en tout cas qui avaient un lien avec cette filière-là. Et l'objectif, c'était justement de leur permettre de se rencontrer et d'échanger sur la thématique des violences et des inégalités, qui est une thématique assez récurrente et sur lesquelles les gens sont parfois un peu démunis, ou au contraire ont des idées, mais ont besoin d'échanger, ont envie de partager sur ce sujet-là. Donc voilà. L'objectif, c'était aussi de à la fois d'analyser les problèmes, de faire un état des lieux au niveau local, et puis ensuite de se dire quelles actions on peut mettre en commun, enfin quelles choses on peut faire en commun pour agir sur cette thématique-là.
À part Supermap, est-ce que vous pouvez me présenter les autres organismes que je peux voir sur l'affiche ?
Donc en fait, effectivement, on est un comité de pilotage de 6 structures, dont Supermap. Donc il y a le Festival Astropolis pour lequel je travaille, que je ne présente pas, le collectif des festivals qui est une fédération dont les adhérents sont des festivals sur le territoire en Bretagne, qui est d'abord né autour de la question du développement durable et puis qui a étendu ses questions sur d'autres thématiques de transition écologique, transition solidaire, économique, etc. HF Bretagne, qui est une association qui existe depuis 2013 en Bretagne, qui milite pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans le spectacle vivant, dans la culture de manière générale. L'Orange Bleu, qui est une association de prévention et de réduction des risques, qui travaille davantage sur les thématiques drogue, alcool, etc. Et c'est tout. Je crois que j'ai cité tout le monde.
Quel risque, quelle forme de discrimination ou de violence vous avez abordé dans cette réunion ?
Ben, là, on parle de violences sexistes et sexuelles. Après, en fait, c'est pas des... Déjà, les violences sexistes et sexuelles, c'est à la fois donc, des violences sexuelles qui peuvent être, par exemple, définies par la loi. Mais ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a aussi tout un pan de violences qui sont beaucoup plus subtiles et qui vont être peut-être plus quotidiennes, qui relèvent donc oui, du sexisme donc, et de, des violences envers les femmes, et qui vont être des remarques, des blagues, des regards, enfin ça c'est aussi dans le milieu festif, des attitudes qui peuvent être menaçantes et qui font que les femmes elles se sentent pas en sécurité dans certains milieux. Et ensuite le parti pris c'est aussi de dire que ces violences là en fait elles existent dans un système de domination qui se croise avec d'autres systèmes de domination dont la question du racisme, la question de l'homophobie et de la transphobie, ce sont aussi des questions qui en fait rentrent dans les violences sexistes et sexuelles et on peut pas traiter la question des violences sexistes si on prend pas en compte la diversité des manières dont elles se manifestent parce que toutes les femmes qui vont subir le sexisme vont aussi peut-être subir d'autres formes d'oppression qui vont avoir aussi des conséquences plus générales. Voilà.
Des formes qu'elles peuvent prendre, mais est-ce que vous avez aussi parlé, j'en vois aux 4 fiches que vous avez affichées dans la salle à la Carène, donc les moyens de combattre ou de résister face à ces formes d'oppression, est-ce que vous pouvez me donner les quelles qui vous semblent les plus importantes ou les plus faciles à mettre en place ?
Là, effectivement, on a travaillé sur deux biais un peu. C'est comment prendre ces questions en charge en interne, c'est-à-dire au sein des équipes, des équipes organisatrices, et comment est-ce qu'on les prend en charge quand on questionne nos publics sur leur comportement, etc. Comment est-ce qu'on se forme, nous aussi, pour pouvoir répondre aux besoins d'accueil de victimes dans le public, par exemple. Les actions les plus évidentes qui reviennent, les moyens d'action, pardon, c'est la question de la formation, déjà, beaucoup, pour ce qui concerne les organisations en interne, à savoir qu'on a tout un tas d'obligations en tant qu'employeur de devoir éviter, en fait, de devoir répondre à des situations de violence ou d'agression au sein de sa propre structure. Donc là, il y a des obligations légales, mais on peut se former sur ces questions-là en tant qu'employeur. On peut aussi faire de la prévention, on doit même faire de la prévention, c'est aussi une des obligations légales. Et voilà, on peut proposer tout un tas de documents en interne pour faciliter la communication de ces messages-là. On a évoqué la question de rédaction de chartes communes, etc. En ce qui concerne la sensibilisation envers nos publics, c'est aussi notre responsabilité d'organisateur, organisatrice, quant aux situations qui peuvent se dérouler quand on organise un festival ou quand on a un lieu comme ici, la Carène. Essayer de savoir comment réagir, quels moyens de prévention est-ce qu'on peut proposer, en passant par des associations qui sont soit former nos équipes en interne, soit former des bénévoles qui peuvent répondre à des besoins de prévention envers notre public. Et puis à l'étape d'après, quand c'est un peu moins drôle et qu'effectivement des personnes de notre public se sont fait agresser, ont été victimes de violences physiques ou verbales, peu importe le niveau d'agression, c'est de savoir accueillir la parole de cette personne-là, savoir réagir correctement, savoir quelles sont nos limites aussi, savoir quelles sont nos obligations juridiques, et savoir communiquer aussi avec des interlocuteurs qui, eux, sont compétents pour pouvoir répondre à ce genre de situation. Et là, il y a tout un tas d'actions qui peuvent être pensées, qui vont de la communication dans nos messages jusqu'au stand de prévention, jusqu'à proposer des ateliers d'autodéfense, comme on le fait à Astropolis. Voilà. Il y a tout un tas d'outils qui peuvent être mis en place.
Si j'ai bien compris, Alix, toi, là, tu es chargée de mission du coup, pour coordonner ces actions et créer des outils du coup, pour pallier à ces violences. Mais du coup, est-ce que, à part ça, là, déjà, est-ce que c'était un temps où vous étiez là professionnellement, tous, ou est-ce que vous étiez. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient là de façon militante et du coup bénévoles aussi? Et ma question, c'est est-ce que les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, vous donnent les moyens en fait, de répondre à ça aussi? Et quels sont les moyens qu'on vous accorde, en fait, dans ce sens-là?
Alors, donc, oui, on était là dans le cadre professionnel. Enfin, moi, j'étais là dans le cadre professionnel et la plupart des personnes qui sont là aussi. Après, c'est vrai que sur la question de l'organisation d'événements, il y a aussi beaucoup de structures bénévoles. Donc, il y a des personnes qui viennent là en tant que bénévoles d'une association qui organise un festival, par exemple. Après, la question du militantisme, on ne l'a pas posée, mais je pense qu'il y a des personnes qui s'identifient aussi, enfin, qui considèrent que leur action contre ces violences, contre les inégalités, c'est quelque chose de militant, même si c'est professionnel. Bon, ça, c'est une autre question aussi de savoir comment lier les deux. Ensuite, sur la question des collectivités, par exemple, moi, ma mission, elle est en partie financée par la région, par certaines collectivités, et c'est quand même un sujet qui est de plus en plus prégnant, il y a de plus en plus d'histoires qui ressortent, etc. Donc forcément, il y a une attention qui est portée à ça. Et je pense qu'il y a aussi des volontés au niveau des collectivités. Après, le truc, c'est que personne ne sait par trop quel bout le prendre. Et donc, je pense que là, il y avait des personnes qui étaient là du département, c'est ça ?
De la région,
qui aussi viennent dans ce type de rencontre pour essayer justement de se dire, OK, en tant que région, où est-ce que nous, on pourrait justement apporter du financement ? Quels sont les leviers sur lesquels on peut accompagner les acteurs, actrices ? Et d'ailleurs, il parlait aussi du fait que c'est des choses qui, en interne, au sein des collectivités, vont aussi être traitées d'une manière ou d'une autre. Donc il faut espérer, en tout cas, qu'il peut y avoir des financements là-dessus. Ouais.
Vous avez des limites en tant que organisme, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre échelle ?
Et je pose la question des limites sur la question de la responsabilité juridique de l'organisateur, parce qu'on s'est déjà posé la question de jusqu'où on pouvait accompagner les victimes. Est-ce qu'on peut aller témoigner avec elles au commissariat ? Est-ce qu'on peut se porter partie civile, par exemple ? C'est une question que j'ai posée à un juriste à la fac de droit ici à Brest. La réponse est non, parce que c'est pas dans l'objet de nos statuts. Mais voilà, c'est des questions qu'on se posait sur jusqu'où on peut aller. Les associations de prévention sont hyper... très vigilantes sur ces questions-là. Elles vont plutôt dans le sens de nous dire de ne pas aller trop loin dans la suite, en fait, avec l'accompagnement, et de surtout, en fait, respecter la parole et les volontés de la victime. On peut vouloir témoigner d'une agression seulement quelques semaines après, voire beaucoup plus long. C'est pour ça que les temps de prescription sont d'ailleurs très longs en France. C'est parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait témoigner d'affaires qu'on avait subies beaucoup plus tard. Et voilà, après, nous, ce qu'on voudrait quand même faire, c'est de se rapprocher du commissariat de Brest, puisque a priori, des personnes formées, elles ont des injonctions à devoir être formées, c'est pas toujours le cas, et les commissariats sont pas toujours dotés de personnes formées, mais a priori, à Brest, ça devrait être le cas depuis récemment, donc on voudrait se rapprocher de ces personnes-là pour avoir un contact direct avec des personnes formées. On sait ce que c'est pour une femme que de devoir aller déposer plainte, etc. Donc moi, je parlais des limites plutôt de jusqu'où on peut aller dans l'accompagnement, et le fait est qu'on peut pas aller beaucoup plus loin qu'au-delà de notre festival, quoi.
Mais juste aussi que la question du dépôt de plainte, c'est pas forcément une finalité, mais que l'accompagnement, il peut prendre d'autres formes. Et justement, le fait de rediriger vers des structures, de dire que voilà, le festival ou la structure la soutiendra dans ses démarches, essayer de visibiliser aussi la question, l'aider à faire d'autres choses. En fait, ça peut être aussi une manière d'accompagner. Et puis le fait déjà de parler de ça et en fait de pouvoir avoir une réponse adaptée quand il y a des violences, ça fait partie aussi d'un processus d'accompagnement. Qui est important, quoi, et nécessaire.
Quel a été le retour de ceux qui ont participé?
Ce qu'on voulait voir sortir de cette journée de travail, c'était justement des prémices de réponse collective à ce qu'on rencontre, aux difficultés qu'on rencontre quand on se pose la question des violences sexistes et sexuelles en milieu festif, dans le milieu des musiques actuelles de manière générale. Le fait est que ces ateliers de travail permettent de voir que en fait, ce dont on parle en termes de solutions se recoupe, donc on a manifestement des réponses communes. Il s'agit maintenant de matérialiser ça, parce que c'est pas parce qu'on a des réponses communes sur le papier que ça va être facile de les mettre en place ensuite. Donc c'est un peu le rôle d'Alix aussi dans l'accompagnement de comment est-ce qu'on peut mettre en place des solutions concrètes et comment est-ce qu'on peut trouver des réponses collectives et les mettre en place collectivement. À mon avis, c'est là un peu pour le moment le frein, quoi. Mais c'était ça en tout cas l'intérêt de la journée de travail et ce à quoi on voulait arriver. Il va y avoir 5 journées départementales en tout, donc il en reste 4. Et Alix va aussi travailler sur faire un travail de synthèse de ce qui ressort de ces 5 journées pour pouvoir apporter aussi faire ressortir en tout cas ce qui est apparu de manière collective sur ces 5 journées, quoi.
Cette interview a, comment dire, pour objectif d'informer les gens qui vont l'écouter et de dire que c'est une esquisse de ce qui a été fait et de ce qui peut être fait pour chaque personne qui travaille dans ce genre de milieu. Si elle veut s'informer plus, où est-ce qu'elle doit aller sur le net ?
Sur le site du collectif des festivals, effectivement, il y a quelques ressources. Après, il y a pas mal de sites internet. Il y a des plateformes, on parlait de la plateforme WAH, qui est une plateforme qui est lancée par la Fédé Lima, il me semble, qui est une fédération de lieux de musique actuelle, où il y a pas mal de ressources à la fois sur des actions mises en œuvre et sur, par exemple, des articles, des guides, etc. Après, il y a des sources un peu différentes. Par exemple, moi, je sais que je conseille pas mal des guides du Défenseur des droits sur les questions plus légales de les obligations des employeurs, le harcèlement au travail, des choses comme ça. Après, il y a aussi la campagne Ici c'est cool qui propose certaines ressources et aussi des retours de témoignages d'acteurs et d'actrices qui ont mis des choses en place.